Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on se la raconte un peu, puisque nous avons le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle qui, depuis son union avec le prince Andrew, dont elle a partagé la vie pendant plus de 10 ans, est membre de la famille royale britannique, c'est la duchesse d'York, Sarah Ferguson, à qui on souhaite la bienvenue dans Historiquement Vôtre. Et
nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la parution d'un roman, votre dernier roman, roman historique, roman d'amour aussi, bref, les deux passions réunies de notre chroniqueuse Clémentine Portier-Kaltenbach qui s'y présente. Alors forcément, Clémentine, vous avez aimé ce livre.
Oui, je vois que vous restez discret sur ma passion pour Napoléon et devant la duchesse d'York, je pense que c'est en effet préférable. Alors, oui, Sarah Ferguson, vous venez de publier ce roman historique qui est inspiré librement de l'histoire d'une de vos arrière grand-tantes, mais le personnage est nourri de quantité d'autres personnages. C'était votre arrière grand-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, déjà rien que le nom en impose. Et ce livre est paru en Angleterre sous le nom « Son cœur pour boussole » et le titre français « À la conquête de sa liberté ». Alors l'action se passe en 1865 en pleine Angleterre victorienne. L'héroïne Lady Margaret a 19 ans. Et le roman commence alors que ses parents doivent annoncer le soir même ses fiançailles avec un homme qu'elle déteste et qui la dégoûte littéralement. Dans ce livre, et c'est vraiment le point de départ, le thème central, c'est vraiment le thème qu'on retrouve chez les fans et les lectrices de Jane Austen. Donc, mesdames qui aimez les livres de Jane Austen, vous allez vous régaler avec celui-ci. Le thème principal est la dépendance des femmes vis-à-vis du mariage. Le mariage est alors un marché. Et pire encore, dans l'Angleterre victorienne, la femme est un bien comme n'importe quel élément du patrimoine. Lorsqu'elle se marie, tous ses biens, et y compris ses enfants, appartiennent à son mari. Juridiquement, elle est une mineure, une incapable. Et c'est d'ailleurs un grand paradoxe chez nos voisins et amis anglais. C'est qu'à la fois, ils ont eu des reines absolument, des figures majeures de l'histoire de la monarchie britannique, et en même temps, la femme est totalement minorée. Donc il y a ce paradoxe, on est dirigé par une reine qu'on respecte, mais la femme est un bien comme un autre. Et il y a même eu en Angleterre des ventes d'épouses jusqu'à la fin du 19e. Alors dans le cas de Lady Margaret, bon, ses parents possèdent des milliers de moutons. Donc tout naturellement, on lui a trouvé un fiancé dont les parents sont dans l'industrie textile. Bah oui, comme ça, voilà. Donc c'est vraiment le mariage patrimonial. Et elle sait qu'elle doit remplir son devoir, qu'elle ne doit pas décevoir ses parents, mais elle considère son futur mariage comme une soumission. Dans le monde où elle est née, elle doit constamment brider son naturel, sa vraie nature. Elle doit se couvrir elle est pleine de taches de rousseur, donc elle doit se couvrir le visage de poudre de perles pour cacher cette cache de rousseur, alors qu'elle est rousse, évidemment, on pense évidemment immanquablement à Sarah Ferguson, elle est rousse, on lui teint les cils et les sourcils en noir, parce que c'est la mode, on lui fait des coiffures alambiquées, pleines d'épingles à cheveux qui la blessent, et elle dit « je voudrais pouvoir lâcher mes cheveux, avoir le sentiment qu'une partie de moi-même au moins est libre ». Attifée comme une poupée pour le bal des débutantes, elle trouve qu'elle ressemble à un paquet cadeau. Voilà, donc que va-t-elle faire? Ses fiançailles vont être annoncées. Eh bien, elle suit son instinct. Elle décide de partir, de ne pas faire ce qu'on attend d'elle, de se rendre maîtresse de son propre destin. Et ses aventures la conduiront des bas quartiers de Londres jusqu'aux États-Unis. Elle aura d'ailleurs un peu le même destin que Jane Austen, parce qu'elle aussi va devenir écrivaine. Mais là où la comparaison s'arrête, c'est que Jane ne s'est jamais mariée, Jane Austen, alors que Margaret, elle, connaîtra l'amour, même si je ne veux pas tout dévoiler. Donc c'est la comparaison s'arrête là.
Merci beaucoup Clémentine. Alors Sarah Ferguson, là, on ne peut pas éviter la comparaison parce qu'elle est flamboyante, elle est rousse comme vous. Il y a beaucoup de vous dans cette héroïne de Lady Margaret, plus que la chevelure.
Well, I have wanted to write this novel
eh bien,
for 15 years.
Ça fait 15 ans que je voulais écrire ce roman.
I have always wanted to know
parce que j'ai toujours voulu savoir d'où me vient mon caractère. J'ai un caractère très fort. Moi aussi, j'ai dû cacher mes taches de rousseur. Moi aussi, je suis rousse. Je ne sais absolument pas pourquoi je prends certaines décisions, pourquoi je fais certains choix. Ça vient vraiment du fond de mon cœur. Et en cherchant, je suis tombée sur Lady Margaret. Dans ma famille, et à l'époque, dans les années au 19e siècle, tout le monde écrivait en fait sur ses frères. Elle était complètement laissée de côté. On ne sait rien d'elle. Donc j'ai pris cette ancêtre et je me suis dit, tiens, si je lui fabriquais une vie. Et en essayant de comprendre cet ancêtre que j'ai et mon histoire, essayer de comprendre ma propre vie, j'ai compris en fait que la véritable noblesse, c'est quelque chose qui vient de l'ADN et qui vient du cœur plutôt que du titre, qui vient de cette bonté d'âme. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que j'ai compris d'où vient l'humilité, d'où vient la force de caractère, je crois. Et en écrivant ce livre, j'ai pu prendre confiance sur ce que je suis et j'ai pu comprendre
about life.
Que
ma
relation à la vie et la considération que j'ai pour la vie et tout ce que je dis dans le livre, tout ce que j'écris, c'est vraiment mon propre rapport à la vie. Quand je racontais que je suis sortie hier de la gare du Nord, j'ai vraiment ressenti cette sensation de liberté. J'ai l'impression que je pouvais faire le tour de l'Europe. Je regardais par la fenêtre, je regardais la tour Eiffel et j'avais cette sensation, cette impression de magie. Et dans le livre, c'est ce qui se passe pour Lady Margaret quand elle s'enfuit, littéralement, quand elle fuit comme une cendrillon juste avant minuit. Elle s'échappe. Et bien sûr, elle va tomber sur un homme qui n'a pas de jambes et qui vend des allumettes dans la rue. Et bien sûr, j'ai tout inventé. Mais cet homme qui est très important dans le livre, je voulais lui rendre hommage, je voulais rendre hommage à son courage.
I'm mad about sitting here with you talking about it.
Et ça me rend dingue de parler de tout ça, y compris de cette misère, en étant là dans le studio avec
vous. C'est un livre que vous aviez en vous depuis 15 ans déjà. Pourquoi seulement maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous retenaient d'écrire ce livre encore pendant quelques années?
Ce n'était pas le bon moment.
It was the pandemic.
Parce qu'il y avait la pandémie.
That gave me the time.
C'est la pandémie qui m'a offert le temps, qui m'a permis de l'écrire. Au lieu de rester là à me dire « Oh mon Dieu, le Covid, la pandémie », je me suis échappée, évadée grâce à ce livre. Je crois que le secret de tout bon roman de Jane Austen ou tout autre grand auteur ou autrice littéraire, que ce soit Balzac ou Jane Austen, c'est ce sentiment de s'évader dans un autre monde. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas simplement un livre, il parle vraiment de moi, même si je ne le dis jamais. J'ai vraiment ressenti chaque instant de la vie du personnage.
Vous le dites très justement, votre principale source d'inspiration pour écrire, c'est ce personnage principal, c'est votre arrière-arrière-arrière-grande-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott. Qui était-elle au fond? Vous auriez presque pu écrire une biographie historique de sa vie qui est terriblement romanesque. On sait très peu de choses sur elle. Qui était-elle?
I could not agree more.
Je suis évidemment complètement d'accord. Mais quand je me suis engagée dans l'écriture d'un roman, je n'ai pas pu faire une autobiographie de Lady Margaret. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que tous mes ancêtres rousses, Lady Margaret, et puis en remontant plus loin, il y a encore une Margaret. Elles s'appellent toutes Margaret, elles sont toutes rousses. Et l'une d'entre elles était la femme du gouverneur d'Australie. C'est elle qui a inauguré le terrain de cricket de Sydney il y a un siècle, presque hier. Et cette Lady Margaret du livre, elle a suivi son cœur.
We can't say, can we, Clémentine?
Est-ce qu'on peut dire ce qui se passe dans l'histoire, Clémentine? Je ne sais pas. Je ne veux pas que les gens renoncent à acheter le livre.
Anyway, you have to buy the book to know.
Acheter le livre pour savoir ce qui se passe.
She, of course, started the first hospital in Edinburgh.
Elle a effectivement ouvert ce premier hôpital à Édimbourg, la véritable Lady Margaret. Donc on sait qu'elle a vraiment défendu le droit à l'éducation, à l'alphabétisation pour les femmes. Elle s'est battue, elle s'est mariée effectivement très tard, à 28 ans. Je ne dirais pas à qui elle s'est mariée, mais en tout cas, c'était très tard pour l'époque. Et pour ne pas m'attarder trop longtemps, je tiens énormément à cette idée que vous avez dite, Clémentine, c'était tout à fait vrai. Comment ça se fait qu'à l'époque, il y avait une femme sur le trône, la reine Victoria, la reine Elisabeth aujourd'hui, et pourtant les femmes, et encore aujourd'hui d'ailleurs, n'avaient pas le droit de faire entendre leur propre voix. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et je crois que c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'insister sur cette question. Comment ça se fait que dans les années 1870, il fallait faire exactement ce qu'on vous disait de faire? Et les rousses, en général, ne font pas ce qu'on leur dit de faire.
Il y a aussi une voix féministe. On peut dire que c'est un roman féministe. C'est très important pour vous de mettre en avant des héroïnes femmes.
I am a deep romantic.
Je suis profondément romantique.
Men.
Et j'adore les hommes.
I mean, I'm not being, you know, I'm not saying I'm, you know.
But I like. Je suis pas en train de dire que je veux beaucoup d'hommes, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime que les hommes ouvrent la porte. J'aime l'aspect chevaleresque, la bienveillance aussi des hommes et les roses rouges. Mais malgré tout cela, on peut quand même avoir une voix et être écouté en tant que femme. Oui, je suis quelqu'un qui insiste énormément sur la nécessité d'être écouté. Et je défends le fait que j'ai une opinion, et même si j'aime le côté chevaleresque et le côté romantique, ça ne me rend pas faible pour autant. Ne vous méprenez pas, ma gentillesse pour une forme de faiblesse.
C'est Mathieu qui le fait. Vas-y.
Nous sommes toujours, je le rappelle, avec Sarah Ferguson, la duchesse d'York, à l'occasion de la parution. Effectivement, c'est le tea time avec elle, à l'occasion de la parution de son roman À la conquête de sa liberté, publié aux éditions Harlequin.
Est-ce que vous aimez cette période victorienne dans laquelle vous nous plongez?
Autant
parce
que Stéphane.
Non mais moi je trouve incroyable cette période victorienne parce que c'est d'abord il y a l'amour, c'est vrai que c'est une société encore très étriquée, mais il y a les progrès techniques, l'industrialisation de la Grande-Bretagne qui règne sur le monde. L'Angleterre, à l'époque, est la première puissance au monde, pratiquement.
Oui, mais c'est aussi Dickens, hein, ces femmes.
C'est aussi, bien
n'oubliez
sûr,
pas bien Dickens,
oui, non, je n'oublie pas Dickens, David Copperfield et...
Anne Faubert,
bien sûr.
And of course, you know, Balzac and all these people.
Et bien sûr, Flaubert, Balzac, j'aime que vous preniez cet exemple, la mère du prince Albert. Louise, elle est venue ici pour essayer de trouver un remède à son cancer du col de l'utérus. Et à l'époque, les médecins étaient à la pointe, les médecins parisiens. Et je suis aussi très fière d'avoir mis beaucoup de choses sur la France et j'en mettrai encore davantage dans mon prochain roman. Mais pour revenir au sujet, j'ai écrit deux livres historiques quand j'ai épousé le prince Andrew parce que je me suis dit que j'étais ignorante et que si j'épousais un prince, il fallait absolument que j'étudie l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai écrit deux livres d'histoire, hein, sur la vie de Victoria et d'Albert. Et sur la vie familiale aussi de Victoria et d'Albert à Osborne House. Et puis, il m'a fallu encore 15 ans pour retrouver la jeune Victoria. Et nous avons réalisé avec Martin Scorsese un film sur la jeune Victoria. C'était mon idée. Et tout ça m'a donné envie d'écrire encore davantage sur l'ère victorienne. Parce que si vous étudiez cette histoire, l'histoire d'Albert et de Victoria, c'est Albert, en fait, qui a dit à Victoria, il faut que tu apprennes les règles du jeu, comment jouer les règles du jeu. Il faut que tu apprennes à jouer mieux que tout le monde. Et c'est lui qui lui a appris.
The of the unity of the monarchy.
C'était aussi le début de l'unité de la monarchie. Il s'est débarrassé de tout ce qui ne fonctionnait pas. Il a dit, voilà, on est une famille, on est une famille moderne, on est 9 enfants, et nous allons unir l'Europe avec toutes les autres monarchies. Et bien sûr, il y a l'histoire de ce mariage en Allemagne. Et tous ses enfants, en fait, ont épousé des nobles en Suisse, dans des familles royales. Il avait cette vision. Et bien sûr, il y a aussi la révolution industrielle. Et puis la grande exposition, ça a été son dernier grand moment avant sa mort.
Il y a juste une chose étonnante. Vous dites que vous avez dû étudier l'histoire. Mais au fond, depuis votre enfance, vous baignez dans l'histoire. Vous-même, vous descendez du roi Charles II, vous parlez de Glasgow, du Duke of Buccleuch, du Duke of Richmond. Vous avez dans le sang toutes les grandes familles d'Angleterre. Vous avez baigné dans l'histoire toute petite.
Yes.
On ne voit pas votre geste.
Yes.
Oui.
Yes, yes, yes.
Tout à fait.
Clémentine
a dit, et c'était très gentil de sa part, que Lady Margaret a beaucoup de caractère.
I have a great sense of humor.
Et j'ai un grand sens de l'humour. Et Lady Margaret aussi a un sens de l'humour. Elle n'aime pas l'homme qu'elle va épouser parce qu'il a une manière très bizarre. Il a des tics, en fait, de bouger. Et il l'agace. Et je me vois très bien aussi m'irriter de ce genre de personne qui me regarderait tout le temps en me disant « Tu ne fais pas comme il faut ».
This book is
pour revenir à Mathieu, sa question, ce livre est très amusant, elle est très passionnée, elle est pleine d'humour. Et donc oui, j'ai beaucoup de chance. Stéphane, c'est moi qui ai énormément de chance d'être face à vous aujourd'hui. Je vis tous les rêves possibles et en même temps, je suis là avec vous aujourd'hui et c'est vraiment formidable. Et
imaginez-moi qui vois Stéphane Bern tous les jours de ma vie. C'est vraiment un cadeau du ciel. Chaque jour, je remercie le Seigneur. Sarah Ferguson, vous êtes avec nous pour ce livre qui paraît aux éditions Harlequin, une maison d'édition connue pour ses publications de romans à l'eau de rose, comme on dit en France. Les romans d'amour, est-ce que vous aimez les lire? Ça fait partie de la littérature que vous aimez?
Love it. I love anything that takes me on escapism.
Tout ce qui me permet de m'évader. Tout ce qui repose sur l'imaginaire, qui développe mon imagination quand je lis le roman. On a parlé de Jane Austen tout à l'heure avec Clémentine. Je la trouve fascinante. Et je trouve fascinant qu'elle nous embarque dans un tel voyage. Elle fait partie de mes icônes. Et oui, j'adore les romans sentimentaux. J'aime que la lectrice doive utiliser sa propre imagination et dans ce livre en particulier, c'est la lectrice qui fait le travail, le lecteur, la lectrice. Dans tous mes livres, c'est ce que je fais. Ma fille Béatrice m'a dit, mais il a fallu que je fasse tellement de recherches, il a fallu que je m'engage tellement auprès d'un personnage, que je mette tellement de passion et puis on tourne la page et puis ce qu'on pensait ne s'est pas produit. Et je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est Jane Austen à revisiter.
Est-ce qu'il y a aussi des romans français qui vous ont inspiré ou en tout cas que vous aimez lire?
J'ai étudié avec Florence Belmondo. Nous avons fait nos études ensemble. Elle était dans ma classe. C'était ma meilleure amie.
So I used to come to France a lot.
Et donc je venais beaucoup en France.
And I used to sit with Alain Delon and
et je passais du temps avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo.
And so I used
beaucoup
to hear all these stories.
Et j'écoutais toutes ces histoires.
Sort of was, obsessed with,
et j'étais complètement obsédée par Flaubert,
Balzac,
par Madame Bovary, par Balzac.
Deals with Provence and,
la manière dont
and Paris,
Balzac
and
parle de la vie provinciale, du rapport avec Paris, ces allers-retours-là.
C'est
comme quand les gens me demandent si je suis croyante et quelle est ma religion. Je dis que je prends des choses du bouddhisme, de l'hindouisme, du catholicisme. Je prends plein de petites choses merveilleuses dans chaque religion. Je ne suis pas à un endroit précis. Et quand je parle de littérature ici à Paris, en France, là aussi c'est un mélange. Je prends des choses un peu partout, comme dit Ken Dickens le faisait quand il empruntait à Balzac.
Mais voyez-vous, madame, il y a Françoise Giroud qui était une très grande journaliste française à qui on avait demandé quelle était sa phrase préférée de la littérature française, citait justement Madame Bovary de Flaubert, et à propos d'Emma Bovary, Flaubert écrit « Elle voulait à la fois mourir et habiter Paris ». Et c'est une des contradictions de Margaret, justement, c'est qu'elle est à la fois elle est partie prenante de cet univers et elle veut s'en échapper. Il y a quelque chose d'Emma Bovary, mais d'une Emma Bovary qui aurait réussi parce qu'elle trouve le bonheur.
Mais il ne faut pas dire la fin.
Non, on ne sait pas si elle trouve le bonheur, il faut lire.
But Clémentine, it's interesting that.
Et Clémentine, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu cette chance d'être effectivement immergée dans l'histoire.
Taking a bit of my knowledge from the ingredients of the cake made from.
Je me suis servi du savoir que j'avais des ingrédients d'un gâteau qui serait à la croisée de Madame Bovary et d'autres choses. Je pense que c'est vraiment dans mon sentiment. C'est comme la recette d'Olivier. Il faut beaucoup d'ingrédients.
Et le meilleur ingrédient, vous n'avez pas changé. Je sais que vous n'avez pas changé. C'est le sens de l'humour qui sauve de toutes les situations dans la vie. En tout cas, merci beaucoup Sarah Ferguson d'avoir choisi Historiquement Vôtre pour parler de votre nouveau roman À la conquête de sa liberté qui vient de paraître aux éditions Harlequin. C'était un honneur, un plaisir de vous accueillir cet après-midi. Revenez aussi souvent que vous voulez, mais attendez pas 15 ans.
Bah oui.
On sera peut-être plus là dans 15 ans.
OK. But can I just say thank you very much.
Que je peux juste vous remercier. Je sais qu'à la radio il faut aller vite et je vois que Mathieu parle très rapidement.
Et try to be discreet.
Et qu'il regarde là, mais...
It's when you really love something.
Quand on aime vraiment quelque chose...
I want to just, like, leave Hebdo for me. Please.
J'ai envie de laisser un peu de place aux choses.
I want to sign your books for you.
Et j'ai envie de prendre le temps de signer votre livre aujourd'hui.
Merci beaucoup,
c'était un plaisir, vraiment.
No, thank you very, very much.
Merci à vous, merci beaucoup à vous tous.
Love to see you again, Stéphane.
Et c'était très chouette de vous revoir, Stéphane.